Bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix.
Bonjour Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Ce mois de septembre est un mois avec des souvenirs plutôt tristes, amers. Au coup d'État du 11 septembre 1973, il y a 50 ans, avec le bombardement du palais présidentiel et le suicide du président Salvador Allende, s'ajoute la mort le 23 septembre de la même année du poète Pablo Neruda. On a pu observer les images diffusées par Arte, télévision Arte, sur le violent affrontement entre manifestants, plutôt jeunes, et la police, c'est-à-dire les carabiniers, que j'ai bien connus, et les cadavres sortis de la rivière Rio Mapocho. La répression est féroce et a duré des années. Nous avons le témoignage de François Nicolau, secrétaire de l'ambassade au Chili de 1973 à 1975. Et il nous dit « Il y a eu d'abord les exécutions sommaires et les internements massifs, notamment dans les grands stades de Santiago, mais aussi en Provence. Puis, les services de renseignement des armées se sont mis au travail, passant au peigne fin sur les quartiers populaires, arrêtant, torturant, extorquant à chacun son carnet d'adresse pour procéder à de nouvelles interpellations. Ceux qui sentaient les filets se refermer tentaient de fuir à l'étranger ou dans des ambassades. Ceux qui étaient pris disparaissaient pour un temps indéfini. Ils s'étaient parfois exécutés ou mouraient sous la torture. On retrouvait de temps en temps les cadavres dans la rue, dans les décharges. » Voilà ce qu'il nous dit donc ce secrétaire jeune qui travaillait à l'ambassade de France à Santiago du Chili au moment du coup d'État. Donc ce mois-ci, j'insiste là-dessus, c'est une période très très tragique. Jusqu'en 1973, on a déjà parlé la semaine dernière sur les disparitions, les tortures et les restes. Mais bon, nous allons passer maintenant à un petit souvenir aussi encore au Chili.
Il s'agit d'un article paru dans Le Monde diplomatique, signé Renaud Lambert. Le discours anticommuniste a toujours foisonné d'images. Pour les uns, le combat implique d'éviter que la chute d'un domino géopolitique entraîne celle des pièces suivantes. D'autres estiment qu'il faut opérer l'ablation de cellules cancéreuses menaçant le reste de la société. Pour le général Augusto Pinochet, il s'agissait de tuer la chienne avant qu'elle ne fasse des petits, au nom de la démocratie. Depuis plusieurs mois, la société bruissait de rumeurs de coups d'État. Le 11 septembre 1973, le général Augusto Pinochet, qui avait juré allégeance à Salvador Allende, jusqu'aux ultimes conséquences démocratiques, déclenche un putsch soutenu par Washington. Le président refuse de se rendre. Avant de se suicider, il adresse un dernier message radiodiffusé à la population.
Camarades, la situation est critique. Nous sommes face à un coup d'État auquel participe la majorité des forces armées. Face à cet événement, je déclare aux travailleurs que je ne renoncerai pas. Confronté à ce tournant historique, je payerai de ma vie ma loyauté au peuple. Travailleur de ma patrie, j'ai foi en le Chili et en son destin. D'autres hommes surmonteront ces moments gris et amers où la trahison prétend s'imposer. N'oubliez jamais que bientôt s'ouvriront à nouveau les larges avenues qu'empruntera l'homme libre pour bâtir une société meilleure. Voilà, donc ça, c'était un extrait de ce dernier discours avant de son suicide.
Et un autre article dans le journal Le Monde en septembre 2023 au sujet de Victor Jara. Il aura fallu attendre 50 ans pour que les assassins du chanteur et compositeur Victor Jara, tués au lendemain du coup d'État de Pinochet en 1973, soient reconnus coupables par la justice chilienne. Le 28 août dernier, la Cour suprême a confirmé les peines prononcées en 2018 en première instance et en 2021 en appel, allant de 25 ans de prison contre 7 anciens militaires pour l'enlèvement, la torture et le meurtre de l'artiste. L'assassinat de Victor Jara a été l'un des plus symboliques de la dictature 73-90 qui a fait 3200 victimes, morts et disparus. Membre du Parti communiste, fervent partisan du gouvernement de Salvador Allende, Victor Jara, âgé de 40 ans au moment de sa mort, était devenu une icône de la chanson protestataire dans son pays et dans toute l'Amérique latine. Cet acte pacifiste et engagé s'inspirait de la tradition populaire et rendait hommage aux classes défavorisées et en particulier au monde paysan dont il était issu. Victor Jara a été arrêté le 12 septembre 1973, c'est-à-dire le lendemain du coup d'État, et emmené avec d'autres prisonniers politiques à l'Estado Chile, transformé en centre de détention. Le corps sans vie du chanteur a été jeté le 16 septembre dans un terrain vague près du cimetière métropolitain.
Oui, et on peut ajouter que quand il a été arrêté, il a été reconnu par des soldats et séparé du reste des détenus. Puis, il a été méthodiquement battu avec acharnement à coups de poing, des pieds ou des crosses de fusil, en particulier sur son visage et sur ses mains. Et un des militaires, on dit que lui avait lancé « On va voir si tu peux jouer de la guitare maintenant, communiste de merde ». Voilà donc la façon dont on a traité Victor Jara, les chanteurs du folklore chilien et, comme on vient de dire Béatrice, populaire dans toute l'Amérique latine.
Tu cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras palomita y un volcán corre en tus venas y mi sangre como brasa tiene paloma. En tu cuerpo quiero hundirme palomita y hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita, ay, ay, paloma, ay, ay, paloma. Flor de fuego tiene paloma, una llamarada mía palomita que ha calmado mil heridas. ahora volemos libre, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua. El sol volverá, volverá. La noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, ay, paloma, ay, ay, paloma.
Víctor Jara, chanteur chilien assassiné par la junte militaire en 1973. Mais nous allons passer à de nouvelles informations un peu plus positives. Au Mexique, donc, un duel des femmes pour la présidentielle de 2024, n'est-ce pas, Béatrix ?
Oui, c'est une situation qui est inédite au Mexique. Les favoris des primaires doivent déterminer les candidats à l'élection présidentielle de juin 2024, sont cette année tant à gauche qu'à droite de l'échiquier politique des favorites. Dans un pays où le machisme demeure prégnant, l'éventualité qu'une femme accède au pouvoir donne déjà un caractère exceptionnel à cette élection. D'autant que les deux responsables politiques présentent des parcours fournis peu communs. À gauche, Claudia Sheinbaum, 61 ans, domine les sondages pour le parti Morena, Mouvement Renouveau National, centre-gauche, au pouvoir depuis 2018 sous le mandat de AMLO, qui est le président actuel, qui s'appelle Andrés Manuel López Obrador, qui ne peut pas se représenter. Cette fidèle du président était la maire de Mexico jusqu'en juin, faisant de la capitale la vitrine de son projet présidentiel. Docteur en sciences de l'environnement, elle a imprimé sa marque sur les questions écologiques. Mais elle a aussi instauré dans la capitale des mesures sociales créant des infrastructures, transports, universités et distribuant des aides dans les quartiers démunis. À droite, Xochitl Gálvez, 60 ans, devance les caciques du parti Action Nationale, PAN-droite, comme ceux du parti du centre-droit. Avec son parcours professionnel impressionnant, cette femme, issue d'un milieu rural, a redonné espoir aux opposants d'AMLO. Cette chef d'entreprise, ingénieure en robotique, met en avant ses origines otomies et ne porte que de larges huit plis, le vêtement mexicain brodé. En cas de duel, l'ancienne maire de Mexico l'emporte haut la main dans les sondages.
Oui, mais c'est vrai que c'est inédit, comme tu viens de dire, Béatrix. La première fois qu'au Mexique, dans l'article, on parle d'un pays très machiste. Et ça serait formidable qu'il y ait une femme présidente pour en 2024. Et il n'y a pas qu'au Mexique, il y a aussi l'Équateur. Il y a une femme qui est arrivée en première.
Les Équatoriens se sont déplacés en masse pour aller voter en août dernier, malgré l'augmentation de la violence des gangs envers le monde politique. La candidate de gauche est arrivée en tête avec 33% des voix. La deuxième place de Daniel Noboa, avec 24%, a été une surprise. Plus jeune candidat, 35 ans, ce libéral est le fils de l'un des hommes les plus riches d'Équateur. Les prévisions des derniers sondages se sont révélées plutôt correctes. Comme annoncé, Luisa González est arrivée en tête. La candidate n'avait pas prévu sur la présence de Noboa au second tour. Au moment de déposer son bulletin dans l'urne, elle jugeait que le plus probable est que nous n'aurons qu'un seul tour. Il y a 3 mois, l'actuel président Guillermo Lasso avait dissous le Parlement alors qu'il était menacé de destitution pour des affaires de corruption, enclenchant ainsi l'organisation de cette élection présidentielle et un référendum sur la poursuite ou non des exploitations pétrolières dans la forêt amazonienne. une majorité d'Équatoriens a voté contre le maintien de l'exploitation.
Oui. Est-ce qu'on peut parler encore de l'Équateur au sujet de... On fait une pause musicale
Je ne sais pas, comme tu veux. Hein.
Oui, oui.
Je ne sais pas.
Non.
Je continue.
Oui, oui, alors, parce que c'est aussi un point positif.
Oui. Alors, l'Équateur renonce à extraire du pétrole dans le parc Yuazuni. La décision est historique. À l'occasion du premier tour des élections présidentielles, les Équatoriens ont choisi par référendum d'arrêter l'extraction de pétrole dans le parc national Yuazuni, emblématique gisement de la réserve amazonienne. Ce faisant, les Équatoriens ont seulement décidé de protéger un lieu crucial de la forêt primaire mondiale, pépite de biodiversité, mais aussi de sanctuariser une terre indigène. Quitte à se priver d'importants revenus, le pétrole constituant l'un des piliers de l'économie équatorienne. Ce combat environnemental, devenu le plus symbolique du pays andin, émerge en 2013. Le parc national Yuazuni se situe en plein cœur de l'Amazonie équatorienne. Malgré son classement par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, et la présence des peuples autochtones sur son territoire, la forêt primitive n'a pas échappé à la fièvre de l'or noir. Le gouvernement a d'ailleurs tout fait pour préserver sa poule aux œufs d'or. Renoncer au pétrole de Yuazuni coûtera au pays plus de 16 milliards de dollars en 20 ans, surenchérissait alors Petroéquador. Des chiffres exagérés selon le professeur d'économie Carlos Larrea de l'Université Simon Bolivar de Quito. L'Équateur possède tout de même des réserves importantes dans le top 20 mondial, malgré l'étroitesse relative de son territoire.
Oui. Alors, on peut quelques repères, même si on va redire quelques aspects. Donc, les pays, l'Équateur, produit 0,5% de pétrole consommé dans le monde. Selon les chiffres de Energy Institute, la production mondiale de pétrole s'élevait en 2022 à 93 millions de barils par jour. Celle de l'Équateur atteignait 479 barils. 480 000 barils, soit environ 0,5% de la production mondiale. Petit producteur, l'Équateur possède tout de même des réserves prouvées importantes dans les top 20 mondiaux, comme tu viens de dire, Béatrix, malgré l'étroitesse relative de son territoire. L'Équateur est devenu membre de l'OPEP, alors là, ça c'est la veillère, je ne savais pas, Organisation des pays exportateurs de pétrole, en 1973, et en est sorti en 2020, après avoir quitté l'Alliance une première fois entre 1992 et 2007. Voilà donc ce qu'on peut parler de cette décision des peuples équatoriens pour conserver ce parc national de Yuazuni.